Seigneur, voici le temps de entendre ta parole, le temps aussi de nous mettre à ton écoute. Je te prie que tu disposes de nos cœurs, Seigneur, que tu illumines nos pensées, notre intelligence par ton Esprit Saint, pour que nous soyons réceptifs, que ce ne soit pas seulement, Seigneur, des paroles que nous écoutons, mais aussi que nous puissions les mettre en pratique. Que nous puissions être ce matin encouragés aussi par rapport à ce que tu veux nous dire. Dirige-nous, éclaire-nous, dans le nom de Jésus. Amen. Bien, je vous salue tous, bonjour. Ça va? On dit toujours ça va, hein, même si parfois ça ne va pas. Alors, en janvier 2013, il y a un sondage qui a été effectué par une agence qui s'appelle l'agence Ipsos. Et ce sondage a révélé que la France a peur. Peur de la manière dont l'histoire mondiale se déroule. Peur de la manière dont l'intégrisme arrive. Peur de tomber dans la précarité, de perdre son emploi, peur du dérèglement climatique, peur d'une troisième guerre mondiale, etc., etc. Et un autre institut, qui s'appelle l'institut IFOP, a également réalisé un sondage, un peu dans ce sens, et en 2010, 52% des Français avaient peur du terrorisme. Et au lendemain des attentats de janvier 2015, eh bien, ce pourcentage est monté à 90%. Alors, simplement pour montrer que nous vivons dans un monde qui semble dominé par l'inquiétude, dominé par des peurs de toutes sortes. Et effectivement, ce qui se passe autour de nous n'arrange pas la situation. Les attentats, comme il a été dit tout à l'heure, les bouleversements climatiques qui ont entraîné parfois, selon les scientifiques, des multiplications des phénomènes climatiques comme les ouragans, etc. Il y a aussi des situations politiques qui sont tendues, les escalades verbales de certains chefs d'État. Et il y a aussi cette médiatisation à outrance qui nous montre parfois en direct les malheurs de ce monde. Je me souviens que le 11 septembre 2001, peut-être que vous connaissez cette date importante dans l'histoire du monde, eh bien toutes les stations de télévision étaient diffusées en direct. Les deux tours jumelles de Manhattan qui étaient éventrées, ça a fait la une pendant très longtemps. Et le monde entier était horrifié, le monde entier avait peur. Et la peur, c'est effectivement un sentiment qui est propre à l'homme aussi, c'est un sentiment que l'homme éprouve assez souvent. Et le XXe siècle, ce siècle qui a vu le développement des techniques moderne, de la science, de l'industrialisation, etc., ce siècle n'a pas réussi à enlever ce sentiment de peur et d'inquiétude chez l'homme. Malgré le confort, pardon, la recherche de confort, malgré la recherche de la facilitation de la vie, du bien-être, malgré toutes les techniques pour essayer de maîtriser le stress, eh bien l'homme moderne, l'être humain moderne, reste quand même fragile, angoissé, n'arrive pas toujours à trouver véritablement la paix. Et la question qui se pose aujourd'hui, c'est face à l'inquiétude, vers qui se tourner? Alors je vous propose de lire un passage qui se trouve dans Ésaïe, le livre d'Ésaïe au chapitre 41, les versets 8 à 24. Ésaïe 41, 8 à 24. Nous sommes en ce moment en train justement d'étudier, de méditer le livre d'Ésaïe lors de nos études bibliques. Donc aujourd'hui, c'est l'occasion aussi de revenir sur ce livre. Ésaïe 41, 8 à 24, version Semeur. Quant à toi, Israël, mon serviteur, Jacob que j'ai choisi, et descendance d'Abraham qui était mon ami, toi que je suis allé chercher aux confins de la terre, et que j'ai appelé de ses extrémités. Toi à qui j'avais dit, tu es mon serviteur, je t'ai choisi et non pas rejeté. Ne sois pas effrayé, car je suis avec toi. Ne sois pas angoissé, car moi je suis ton Dieu. je t'affermis, je viens à ton secours. Pour sûr, je te soutiens de mon bras droit qui fait justice. Tous ceux qui sont irrités contre toi sombreront dans la honte et dans le déshonneur. Tes adversaires seront réduits à rien. Ils périront. Tu auras beau chercher, tu ne trouveras plus ceux qui te querellaient, qui te faisaient la guerre. Ils seront tous anéantis, réduits à rien. Car c'est moi, l'Éternel, qui suis ton Dieu. Je saisis ta main droite, je te dis, sois sans crainte, je suis là pour t'aider. Sois donc sans crainte, vermisseau de Jacob, ô petit Israël, car je viens à ton aide. L'Éternel le déclare, celui qui te délivre, c'est le Saint d'Israël. Voici, je fais de toi un traîneau de battage tout neuf, armé de pointes. Tu battras les montagnes, tu les broieras, tu rendras les collines semblables à la paille. Oui, tu les vanneras, et le vent les emportera, l'ouragan les dispersera. Mais toi, tu placeras ta joie en l'Éternel, et ta fierté dans le Saint d'Israël. Voici, je fais de toi un traîneau de battage tout neuf, armé de pointes. Tu battras les montagnes, tu les broieras, tu rendras les collines semblables à la paille. Oui, tu les vanneras, et le vent les emportera, l'ouragan les dispersera. Mais toi, tu placeras ta joie en l'Éternel et ta fierté dans le Saint d'Israël. Les opprimés et les pauvres cherchent de l'eau sans en trouver, et la soif dessèche leur langue. Moi, l'Éternel, je les exaucerai, moi, le Dieu d'Israël, je ne les délaisserai pas. Je ferai sourdre les rivières sur les sommets arides et jaillir les fontaines au milieu des vallées. Je transformerai le désert en étang rempli d'eau et le pays aride en source jaillissante. Je planterai dans le désert le cèdre et l'acacia, le myrte et l'olivier. Je ferai croître dans la steppe le cyprès, le pin et le buis. Pour que tous voient et reconnaissent et qu'ils observent, qu'ils comprennent que c'est la main de l'Éternel qui a fait tout cela, que le Saint d'Israël en est le Créateur. Vous, les dieux des nations, présentez votre cause, dit l'Éternel. Exposez vos arguments, dit le roi de Jacob. Qu'ils les exposent donc, qu'ils nous annoncent ce qui doit arriver. Déclarez-nous quels sont les faits passés que vous avez prédits, pour que nous les examinions et que nous constations leur accomplissement. Ou faites-nous entendre ce qui doit arriver. Annoncez-nous les choses qui doivent survenir plus tard, et nous saurons que vous êtes des dieux. Oui, faites quelque chose, que ce soit bien ou mal, afin qu'en le voyant, la crainte nous remplisse. Mais vous êtes moins que rien, et toutes vos actions sont moins que du néant. Celui qui vous choisit se rend abominable. Voilà, jusque-là, notre lecture de ce matin. Alors, d'abord, un petit mot de contexte par rapport à ce que nous venons de lire. L'époque de rédaction de ce livre se situe à peu près vers le 8e siècle avant Jésus-Christ, et s'est étalée sur plusieurs décennies. Et à cette époque, Israël était déjà divisé en deux grands royaumes, le royaume du nord, qu'on appelle le royaume d'Israël, d'Éphraïm, et le royaume du sud, qu'on appelait le royaume de Juda. Donc cette séparation avait lieu en 930 avant Jésus-Christ, selon les historiens. Et il faut aussi savoir que les Israélites étaient environnés par de grandes puissances militaires menaçantes. Il y avait la Syrie, il y avait l'Empire assyrien, et plus tard il y a eu Babylone aussi. Et devant ce danger, les rois israélites avaient évidemment peur d'être détruits par ces empires, et ça a conduit certains à développer des alliances politiques que la plupart du temps, le Seigneur n'approuvait pas. Mais au final, qu'est-ce qui s'est passé? Le peuple d'Israël a été déporté, il a été exilé. Et la Bible dit que c'est à cause du fait qu'il n'a pas mis sa confiance en l'Éternel que Israël a connu ce sort dramatique. Il faut dire aussi que le ministère d'Ésaïe s'est terminé bien avant que le peuple soit déporté, puisqu'il est mort avant l'exil a eu lieu en 587. Mais de son vivant, Ésaïe donc a prophétisé, il a déjà entrevu la délivrance future de son peuple et son retour au pays. Et dans le chapitre 40 de son livre, face au questionnement du peuple d'Israël, eh bien, Ésaïe les rassure. Il dit, au verset 27, il dit « Pourquoi donc, ô Jacob, parlerais-tu ainsi ? Pourquoi dirais-tu « Mon sort échappe à l'Éternel et mon Dieu ne fait rien pour défendre mon droit ?» Donc ça, c'est le cri des Israélites qui sont en captivité. Pourquoi, ô Dieu, tu nous oublies comme ça ? Et Ésaïe, au chapitre 41, va donner la réponse de Dieu à ces questionnements. Il va annoncer que le peuple d'Israël va être délivré de la captivité. Et il va appuyer cette nouvelle en donnant trois raisons de se confier en l'Éternel face à l'inquiétude. Trois raisons de se confier en l'Éternel face à l'inquiétude. Et la première raison, c'est que Dieu va anéantir les ennemis. Première raison de se confier en Dieu, de mettre sa confiance en Dieu face à la peur. Et dans le contexte de notre passage aussi, Ésaïe s'adresse donc à un peuple qui va être en captivité pendant 70 ans, 7 décennies. Et on imagine bien, après 7 décennies, l'état d'esprit du peuple. Angoisse, perte d'identité face à l'avenir, impression d'être oublié par l'Éternel. Et c'est à toutes ces inquiétudes, à toutes ces angoisses qu'Ésaïe apporte cette réponse. Ne sois pas effrayé, car je suis avec toi. Ne sois pas angoissé, car moi je suis ton Dieu. Je t'affermis, je viens à ton secours. Pour sûr, je te soutiens de mon bras droit qui fait justice. Autrement dit, n'aie pas peur des apparences. Ne juge pas la situation sur un plan purement humain. C'est moi qui dirige les opérations. Je m'occupe personnellement de ton cas. C'est une merveilleuse promesse de délivrance qu'apporte Dieu. Dieu va donc enfin libérer son peuple du joug babylonien. Et au verset 11 à 13, il dit « Tous ceux qui sont irrités contre toi sombreront dans la honte et dans le déshonneur. Tes adversaires seront réduits à rien. Ils périront. Tu auras beau chercher, tu ne trouveras plus ceux qui te querellaient, qui te faisaient la guerre. Ils seront tous anéantis, réduits à rien. » Autrement dit, les Israélites n'ont plus rien à craindre de leurs bourreaux, de leurs ennemis. Dieu va faire en sorte que les ennemis d'Israël soient hors d'état de nuire. Alors à notre époque, l'homme, l'être humain, qu'il soit croyant ou non croyant, a aussi des ennemis, bien sûr. Et le chrétien en fait partie, des personnes qui ont des ennemis. Les incroyants, par exemple, qui s'opposent parfois de manière très virulente dans certains pays où le christianisme est persécuté. Un ennemi aussi, c'est le péché. Une puissance qui nous assaille jour après jour et contre laquelle nous devons lutter. Et un autre ennemi, et non le moindre, celui que Paul appelle le dernier ennemi, c'est quoi ? La mort. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 26. La mort derrière lequel il y a celui qui détient encore la puissance de la mort, à savoir le diable. Beaucoup de chrétiens souffrent de l'adversité. C'est une réalité. Ce sont des souffrances palpables, douloureuses, souvent difficiles à supporter. Un jour, nous serons confrontés à des épreuves, sans doute, si ce n'est pas déjà le cas pour certains d'entre nous. Et nous serons peut-être tentés aussi de dire que Dieu nous a oubliés, que Dieu ne nous aime plus, comme cela a été le cas pour les Israélites qui étaient en captivité à Babylone. L'apôtre Paul lui-même a fait l'amère expérience de la souffrance plusieurs fois, des doutes peut-être même aussi. Il a été emprisonné, il a été humilié, il a été lapidé, il a été fouetté. Et pourtant, ça n'empêche pas de proclamer avec une conviction inébranlable, « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Romains 8, 31. Et plus loin, dans ce même chapitre 8 de Romains, verset 35, il ajoute « Qu'est-ce qui pourra nous arracher à l'amour de Christ ?» Et il énumère des formes d'adversité après que pourra rencontrer le chrétien. Détresse, angoisse, persécution, Faim, misère, danger, épée. Alors, l'épée, ça suppose la mort. Mais à la fin de son exposé, au verset 38-39 de ce même épître aux Romains au chapitre 8, voici ce que dit Paul. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous arracher à l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ, notre Seigneur. Quelle promesse merveilleuse! Là, Paul se veut vraiment exhaustif. Il dit « Rien ne pourra nous arracher à l'amour de Dieu ». En fait, pour Paul, finalement, la chose la plus importante, c'est de savoir que rien ne peut empêcher le plan d'amour de Dieu de s'accomplir pour ses enfants. Le monde, la chair, le diable peuvent s'acharner contre le chrétien, mais si Dieu est de son côté, jamais tout cela ne pourra le séparer de l'amour de Dieu. Même ce qui semble être une défaite aux yeux des hommes sera une victoire. Parce qu'au final, eh bien, nous serons toujours aimés par Dieu. Au final, même la mort, le dernier ennemi, sera vaincu. Et la démonstration en sera éclatante le jour où nous ressusciterons corporellement dans un corps glorifié. C'est une espérance que la Bible nous dit. Au final, nous avons l'assurance d'être plus que vainqueurs. Dans tout cela, dit l'apôtre Paul, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et c'est ça qui est le plus important. Alors pour en revenir à notre texte, Isaïe donc voulait dans un premier temps rassurer les Israélites en captivité en faisant voir le sort qui est réservé à leurs ennemis. Il dit, tous ceux qui sont irrités contre toi sombreront dans la honte, tes adversaires seront réduits à rien, ils périront. Et de même pour nous qui sommes chrétiens dans la Nouvelle Alliance, eh bien, la parole de Dieu nous montre également le sort final du diable. Le diable, il a certes une certaine latitude pour opprimer le peuple de Dieu, mais il est destiné à être jeté dans les temps de soufre et de feu pour y subir des tourments éternels. Le diable qui l'est trompé fut jeté dans les temps de feu et de soufre. Il y rejoignit la bête et le faux prophète. Ils subiront les tourments jour et nuit pendant l'éternité. Voilà le sort final du diable. Il est déjà vaincu et voilà ce qui lui attend. Ultimement. Par ailleurs, la Bible dit aussi que Jésus a déjà désarmé toute autorité, tout pouvoir, les donnant publiquement en spectacle quand il les a traînés dans son cortège triomphal après sa victoire à la croix. La victoire sur le diable a déjà été acquise par Jésus. Et nous n'avons plus à avoir peur du diable. Nous n'avons plus à nous inquiéter de nos ennemis. Première raison donc de ne pas être inquiet, c'est que Dieu réserve à nos ennemis, à l'ennemi, la destruction, l'anéantissement. Deuxième raison, Dieu pourvoit aux besoins. Et nous avons lu tout à l'heure, dans les versets 17 et 20, les opprimés et les pauvres cherchent de l'eau sans en trouver, et la soif dessèche leur langue. Moi, l'Éternel, je les exaucerai. Moi, le Dieu d'Israël, je ne les délaisserai pas. Je ferai sourdre des rivières sur les sommets arides et jaillir des fontaines au milieu des vallées. Je transformerai le désert en étang rempli d'eau et le pays aride en source jaillissante. Voilà, etc. Alors, Esaïe discerne aussi notre raison pour laquelle le peuple captif va être dans l'angoisse. Même s'il va être libéré, il y a encore une certaine angoisse. La perspective d'être démuni. La perspective de manquer du nécessaire sur le plan matériel. On dit que les prisonniers qui ont purgé de longues peines et qui s'apprêtent à être libérés sont souvent sujets à des angoisses, notamment la peur de ne pas réussir leur réinsertion sociale. Et quand il y en a qui sortent à un certain âge, ben ils ont peur tout simplement de ne plus avoir de quoi manger. Ils s'inquiètent de leur avenir. Il se pose la question de savoir qui pourrait encore embaucher quelqu'un dont le casier judiciaire est très chargé. Et c'est un peu l'état d'esprit qui va animer les Israélites une fois libérés. Ben, comment on va survivre finalement? On va être libérés, mais bon, on était captifs à Babylone, on avait de quoi manger malgré tout. Mais là, comment est-ce qu'on va survivre? Qu'est-ce qu'on va manger? Qu'est-ce qu'on va boire? De quoi serons-nous vêtus? Et à ces questions, Dieu répond par la bouche d'Isaïe, en utilisant d'ailleurs des termes qui évoquent le désert. Je ferai sourdre des rivières sur les sommets arides, jaillir des fontaines au milieu des vallées, je transformerai le désert en étang rempli d'eau. Et là, il y a une allusion claire à l'exode du peuple d'Israël. Vous vous souvenez, entre la libération de l'esclavage d'Égypte et la rentrée dans le pays de Canaan, ils sont passés par le désert. Et ils sont passés par la faim, la soif, le dénuement, l'angoisse, la désillusion, l'errance pendant 40 ans. Bien sûr, Dieu était présent, mais à cause de leur tendance à l'incrédulité, à la désobéissance, les Israélites ont dû essuyer bien des déboires. Mais dans notre texte, Ésaïe entrevoit un exode d'une autre dimension. Un nouvel exode, incomparable avec l'ancien exode. Après sa libération, le peuple ne sera plus dans l'angoisse ni le dénuement. L'Éternel lui-même se chargera de faire jaillir des rivières sur les sommets arides. L'Éternel donc transformera le désert en terre fertile. Et nous voyons dans les versets que nous venons de lire des termes imagés qui évoquent l'abondance. Je planterai dans le désert le cèdre, l'acacia, le myrte, l'olivier, etc. Alors autant l'exode entre l'Égypte et le pays promis se déroulait dans un environnement hostile, dangereux, aride, autant Dieu annonce que par sa propre main, il va aplanir les sentiers et rendre ce nouvel exode comme une marche glorieuse pendant laquelle son peuple ne manquera de rien. Et ce nouvel exode dont parle Ésaïe a non seulement une portée à court terme, parce que ça parle d'un futur immédiat qui va être l'exil, le retour d'exil, mais il y a aussi une portée à long terme pour nous chrétiens. En effet, depuis que le Seigneur Jésus-Christ est venu, le chrétien aussi a été libéré de l'esclavage du péché. Et il est également en train de vivre un nouvel exode pendant lequel il est en marche vers le royaume de Dieu. Frères et sœurs, nous qui sommes chrétiens, nous sommes dans un nouvel exode où Dieu nous accompagne. Seigneur lui-même a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Notre destinée, si nous sommes croyants, si nous sommes chrétiens, c'est le royaume de Dieu. Et nous marchons en ce moment vers cette destinée. Alors bien sûr, nous traverserons des moments de doute. Mais face à nos peurs légitimes, face à nos inquiétudes bien humaines, le Seigneur Jésus répond. Ne vous inquiétez pas en vous demandant qu'allons-nous manger, avec quoi allons-nous habiller. Ne vous faites pas de soucis sur le manger ou le boire et ne vous tourmentez pas pour cela. Toutes ces choses, les païens de ce monde s'en préoccupent sans cesse. Mais votre Père sait que vous en avez besoin. Faites plutôt du règne de Dieu votre préoccupation entière et ces choses vous seront données en plus. N'aie pas peur, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. Quand nous étions étudiants à l'Institut biblique de Nogent, nous venions d'arriver, nous avons quelques économies que le Seigneur nous avait permis d'avoir, et il fallait payer bien sûr les frais de scolarité. Et j'ai entrepris de tenir un tableau de bord, un tableau Excel, pour vérifier, pour comptabiliser toutes les dépenses, en tenant compte bien sûr des économies qu'on avait. Jour après jour, mois après mois, je commençais à être angoissé. J'ai dit à Nyarinsu, j'ai dit, écoute, si ça continue, on ne va plus rien avoir, parce que les économies diminuent à vue d'œil. Et tous les jours, j'étais en train de vérifier ce tableau, fébrilement, tous les soirs, hein, en rentrant chaque dépense qu'on a eue, chaque centime, chaque dépense, et hélas, j'étais vraiment un peu dans l'angoisse. J'ai dit, comment on va faire? Il y a 3 années d'études, on était partis pour 3 années, là, je ne sais pas si on va finir une année. Et le Seigneur m'a mis à cœur vraiment de supprimer ce fichier. Parce que ça servait à rien. Et supprimer ce fichier, c'était un pas de foi. De dire, on va laisser le Seigneur agir. Et je peux vous dire, c'est vraiment une expérience vécue, que le Seigneur a agi au-delà même de nos espérances. Arrivé vers le mois d'avril 2013, il fallait payer, il fallait déjà s'inscrire pour la deuxième année. Et à ce moment-là, on va voir le comptable, en lui disant, voilà, on n'a pas encore de quoi payer la deuxième année, ou alors on peut payer une partie. Et le comptable a dit, mettez votre confiance dans le Seigneur. C'est ce qu'il a dit. Il a dit, plusieurs ont fait l'expérience de la grâce de Dieu. Et donc, on est allé par la foi. Et avant de payer et commencer à payer, on a vu dans notre... qu'on appelle ça, notre casier, un don qui correspondait au centime près à la somme dont nous avons besoin pour continuer nos études. Vraiment, on a loué le Seigneur en disant, voilà, c'est bien facile de dire que Dieu pouvoir a besoin, en théorie, mais quand on le vit vraiment, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais Dieu nous demande d'abord de nous préoccuper de son royaume et de sa justice et de lui faire confiance. Si aujourd'hui nous éprouvons des angoisses liées à des choses matérielles, sachant que Dieu connaît parfaitement notre situation comptable, il nous demande simplement de lui faire confiance et de rechercher d'abord à vivre selon sa volonté. Et il s'occupera du reste. Enfin, dernier point, dernière raison de ne pas s'inquiéter, Dieu est maître de l'avenir. Vous, les dieux des nations, présentez votre cause, dit l'Éternel. Exposez vos arguments, dit le roi de Jacob. Qui les expose donc et qui vous annonce ce qui doit arriver? Déclarez-nous quels sont les faits passés que vous avez prédits pour que nous les examinions, que nous les constations. Faites-nous entendre ce qui doit arriver. Là, c'est Dieu qui s'adresse au faux Dieu. Dieu avec un petit dé, de manière ironique, pour leur dire, en fait, que les faux dieux, les idoles, sont incapables de prédire l'avenir. Et d'ailleurs, un des grands thèmes du livre d'Ésaïe, c'est la souveraineté de Dieu face à l'histoire. Plusieurs passages, dont celui que nous voulons de lire, donc, affirment cette souveraineté totale de Dieu, selon laquelle c'est lui qui révèle ses plans à ses prophètes, c'est lui qui règne sur le cours de l'histoire, c'est lui qui conduit ses projets à leur accomplissement. Et dans cette dernière partie, donc, l'Éternel se positionne comme un Dieu omniscient, un Dieu qui connaît l'avenir, puisque c'est lui qui écrit l'avenir. Et dans cette optique, il se compare lui-même aux idoles, des païens, incapables de prédire l'avenir, incapables d'intervenir dans le cours des événements. Et en faisant cela, Dieu apporte une réponse à son peuple, parce que son peuple a été traversé certainement par le doute. Le fait d'avoir déporté, le fait d'avoir été prisonnier par les Babyloniens aurait pu les inciter à croire que les dieux des Babyloniens étaient supérieurs à Israël. Ça, c'était une tentation, mais si on a été vaincu par les Babyloniens, c'est que peut-être que les dieux des Babyloniens sont plus efficaces que notre Dieu. C'est une tentation. Et à l'époque, il était coutume de consulter les dieux afin de connaître l'avenir. Et peut-être que les Israélites exilés auraient été tentés de consulter les idoles aussi, babyloniennes. Mais Dieu affirme clairement que ces idoles sont moins que rien, que toutes leurs actions sont moins que néant, et que celui qui les choisit, qui choisit les idoles, se rend abominable. Alors, vous savez que de nos jours, l'occultisme fait toujours recette. Hein. J'ai lu une publicité annonçant la tenue d'un salon de voyance la semaine prochaine à Paris. L'homme a peur de l'avenir, peur du lendemain, et la tentation est grande de consulter des médiums, des voyants, etc. Frères et sœurs, si nous avons mis notre confiance en l'Éternel, une parole qui dit dans un psaume, alors ça c'est ce qu'on vient de lire tout à l'heure, parole qui dit dans le, voilà, excusez-moi, un psaume, psaume 31, versets 15 à 16, on l'a chanté tout à l'heure, merci Jérémie. Mais moi Éternel, je me confie en toi, je dis c'est toi qui es mon Dieu, mes destinées sont dans ta main, délivre-moi de la main de mes ennemis car ils s'acharnent contre moi. Notre avenir, frères et sœurs, notre histoire est entre les mains de notre Créateur. Entre ses mains, nous n'avons rien à craindre. Nous n'avons pas à nous préoccuper de notre futur, d'autant que Dieu nous interdit formellement de telles pratiques, y compris de consulter l'horoscope. Je ne sais pas si parmi nous, ce matin, il y en a qui consultent même furtivement, ou même pour rigoler, dit-on, l'horoscope. Non, attention. C'est une pratique que Dieu abhorre. Qu'on ne trouve chez toi, chez vous, personne qui pratique la divination, qui recherche les présages, qui consulte les augures. Hein, l'horoscope en fait partie. Ou s'adonne à la magie, car le Seigneur a en abomination ceux qui se livrent à de telles pratiques. Deutéronome 18, versets 10 à 13. Dieu est un Dieu souverain, maître de l'histoire, maître de l'avenir, à tel point qu'il sait parfaitement le nombre de jours que nous allons vivre sur cette terre. Il y a un psaume qui dit cela, le psaume 139. Alors que demander de plus? Pourquoi vouloir absolument rentrer dans les détails? D'autant que le Seigneur nous interdit de telles pratiques. Alors, j'arrive à la conclusion de ce message. Dans notre lecture de ce matin, nous avons donc vu que le prophète Isaïe donc discerne chez les Israélites en captivité une certaine crainte donc face à leur avenir, donc crainte qui leur fait poser des questions légitimes. Voilà. Comment allons-nous survivre? Qui nous protégera? Comment allons-nous survivre? Quel va être notre avenir? Il y a cette, je dirais, cette triple question. Donc, Esaïe a donné au peuple d'Israël une triple raison de ne pas s'inquiéter. Dieu réserve la défaite à ses ennemis. Dieu pourvoira à ses besoins. Et Dieu tient en main son avenir. Alors, aujourd'hui, nous pouvons avoir légitimement peur face à la montée du chômage, face à la recrudescence des actes terroristes, face au dérèglement climatique, face à la guerre, au bruit de guerre, face à l'intolérance, à la persécution, face à la maladie. Face à l'imminence de la mort, il y a de quoi être dans l'appréhension. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même, dans son humanité, a connu la peur et l'angoisse à la perspective de ce qui allait lui arriver. Dans le jardin de Gethsémané, il a exprimé sa détresse à son Père céleste. Il lui a demandé s'il était possible que la coupe de ses souffrances futures s'éloigne de lui. Et à ce moment, Jésus était dans une angoisse indescriptible. La parole de Dieu fait mention de gouttes de sueur qui étaient comme des grumeaux de sang. L'angoisse le saisit, sa sueur devint comme des gouttes de sang qui tombaient par terre. Dans Luc chapitre 22. En médecine, cette manifestation est connue sous le nom d'hématidrose. Je ne sais pas s'il y a un médecin ici. C'est dû à un stress intense. Et Luc, l'auteur de l'évangile qui porte son nom, était médecin, n'a pas manqué de noter, de remarquer ce phénomène particulier. Jésus a connu un stress intense. Et pourtant, il savait que sa mission, son œuvre, était étroitement liée à son sacrifice sur la croix, à sa mort. C'est ce qui lui a fait dire, non pas ma volonté, mais ta volonté. Alors, de même que Jésus a connu l'angoisse, frères et sœurs, eh bien, il comprend aussi nos appréhensions. Puisqu'il a été lui-même éprouvé dans ce qu'il a souffert, il peut aussi secourir ceux qui sont éprouvés. Il peut secourir, rassurer ceux qui sont dans le doute face à l'avenir. Donc à la question posée au début de ce message, vers qui nous tourner dans l'inquiétude? Eh bien la réponse c'est vers le Seigneur, Jésus-Christ. Jésus-Christ, plusieurs fois dans l'Évangile, a dit, n'ayez pas peur. Matthieu 8, 26. Matthieu 14, 27, 17, 16, Jean 6, 20, etc. Il y a beaucoup de passages où le Seigneur dit « Ne craignez pas ». Et aujourd'hui, c'est encore ce qu'il veut nous dire. N'ayez pas peur. Votre ennemi, le diable, a été terrassé. Je l'ai vaincu à la croix. N'ayez pas peur. Je suis le bon berger qui prend soin de vous. N'ayez pas peur. Vous serez avec moi au paradis. Jésus-Christ est celui qui a vaincu les souffrances, qui a vaincu la mort, qui a vaincu le diable. Et veut aussi rendre victorieux celles et ceux qui souhaitent le recevoir comme maître absolu dans leur vie. Et pour terminer ce passage, un verset. Car moi, je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur, déclare l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. Jérémie 29, 11. C'est une parole de Dieu qu'a reçue le prophète Jérémie pour le transmettre au peuple qui était justement en captivité. Autant Ésaïe n'était plus de ce monde quand, cette captivité s'est avérée, mais Jérémie, lui, c'était un prophète qui a vu le peuple partir en captivité et il a donné ce verset. C'est une parole pleine d'espérance, une promesse encore valable pour nous aujourd'hui. L'avenir que le Seigneur réserve à tous ceux qui mettent leur confiance en lui est un avenir glorieux qui sera vécu dans la présence éternelle de Dieu. C'est là notre espérance en tant que chrétiens. Peut-être que ce matin, nous avons encore des craintes face à notre avenir. Peut-être que ce matin, nous avons encore de l'appréhension, ne sachant pas vraiment quelle sera notre destinée après la mort. Eh bien, le Seigneur nous appelle à nous abandonner entre ses mains et à mettre toute notre foi en lui. Prions. Seigneur, merci parce que tu es ce Dieu souverain sur toutes choses. Et nous voulons, Seigneur, vraiment proclamer cette souveraineté, souveraineté dans nos vies, souveraineté sur l'histoire, souveraineté sur notre avenir. Seigneur, merci parce qu'avec toi, nous n'avons rien à craindre. Il est vrai que nous pouvons passer par des moments difficiles, de doutes, de questionnements, des maladies et même la mort. Nous passerons tous par cela. Mais Seigneur, l'apôtre Paul a dit que ni la mort ni la vie ne nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Merci pour cette espérance qu'ultimement, Seigneur, nous te verrons tel que tu es. Nous serons avec toi dans un corps glorifié. Seigneur, nous te prions, si c'est encore le cas, d'apaiser nos cœurs, si nous sommes encore dans l'angoisse, dans l'appréhension face à l'avenir. Par ton esprit, Seigneur, rassure-nous, montre-nous que voilà, tu es ce Dieu qui ne nous oublie pas. Seigneur, que nous puissions nous ressasser aussi cette réalité que le diable a déjà été vaincu, cette réalité que c'est toi qui pourvois à tous nos besoins, Seigneur. Cette réalité que notre avenir est dans ta main. Loué sois-tu dans le nom de Jésus. Amen.